15 septembre. Dîner hier chez Karl Einstein avec Zett et les batailles. Traîner ensuite. Vu la caissière nègre de chez Bricktop, si charmante.
Donc, Michel Léris, en 1963. Bataille portée, outre un chapeau de feutre gris, un pardessus de ville à chevrons noirs et blancs. J'étais sensible aussi au dehors même du personnage qui, plutôt maigre et d'allure à la fois dans le siècle et romantique, possédait, en plus juvénile bien sûr et avec une moindre discrétion, l'élégance dont il ne se départirait jamais. Lors même que son maintien alourdi lui aurait donné cet air quelque peu paysan que la plupart ont connu. Élégance tout en profondeur et qui se manifestait sans aucun vain déploiement de faste vestimentaire. À ses yeux, assez rapprochés et enfoncés, riches de tout le bleu du ciel, s'alliait sa curieuse dentition de bête des bois, fréquemment découverte par un rire que peut-être à tort, je jugeais sarcastique. Et Bataille, en 1951. Il était alors élégant, mais d'une manière subtile et sans l'attention qui lui retira plus tard une partie de cette élégance. Il se poudrait le visage entièrement, se servant d'une poudre aussi blanche que le talc. L'agacement avec lequel il se rongeait l'extrémité des doigts, près des ongles, achevait de donner un relief lunaire à ses traits.
Un commentaire.
J'aime bien ces deux portraits parce qu'ils ont quelque chose de vache. Et au fond, je crois que c'est ce qui m'intéressait le plus. C'est pour ça que je les avais un peu placés en tête. Ils ont quelque chose qui touche à trois façons d'être, qui sont d'une part le cosmétique ou le soin porté à ajouter quelque chose au visage. Et pour Léris, ce soin qu'il appelait d'ailleurs lui-même minéral, à se minéraliser en quelque sorte. D'autre part, ce qu'ils appellent l'un et l'autre, très curieusement, l'élégance, chose relativement indéfinie, mais à laquelle ils ont l'air, l'un et l'autre, d'accorder une certaine importance. Et puis la troisième chose, je crois que c'est le corps et la posture du corps, ou plus exactement peut-être le poids de corps, la façon de se maintenir. Léris fait un commentaire qui, pour lui, a, je crois, une certaine valeur sur l'aspect paysan, l'aspect robuste, la démarche lourde de Bataille, tandis que Bataille, très curieusement, attire l'œil sur les ongles de Léris, sur sa main, sur sa façon de porter ses ongles à sa bouche, et il confond d'ailleurs de façon très amusante la lunule des ongles avec l'aspect lunaire du visage de Léris, comme si l'un et l'autre allaient de pair, allaient ensemble. Mais il n'en reste pas moins que l'un comme l'autre font, l'un de l'autre, un portrait à la fois profondément attentif et assez vachard, assez cruel, avec tout ce que ça peut avoir de véritable amitié, justement, que ce regard-là.
On devrait partir de là, il est presque impossible de parler de l'amitié de Léris et de Bataille. Vous écriviez ceci après avoir remarqué, Pierre Villard, que l'érotisme est dédié par Bataille, le livre donc est dédié par Bataille à Michel Léris, et que la deuxième édition de L'Âge d'Homme est dédiée par Léris à Georges Bataille.
Effectivement, c'est pas une chose dont il est facile de parler, parce que soit on s'arrête aux quelques bribes biographiques et souvent anecdotiques, qui sont pas sans intérêt d'ailleurs, et qui sont pour certaines d'entre elles même assez fascinantes, soit on essaye de comprendre de l'intérieur des livres, c'est-à-dire on essaye de comprendre comment chacun peut se lier à l'autre, en lisant entre les lignes les traces de cette amitié. Et puis en même temps, comme le disait Blanchot dans une phrase que je place en exergue de ce petit article, il n'y a pas de témoins, c'est-à-dire qu'ils sont d'une certaine façon seuls, ces deux-là. La raison pratique, sans doute, de la dédicace de Léris, c'est la possibilité qui avait été plus ou moins offerte à Léris de participer à une collection intitulée « L'érotisme ». Collection chez Guy Lévis-Manot, chez GLM, dans laquelle paraîtra Miroir de la tauromachie. Et je ne me souviens plus d'ailleurs si Miranda Tourmachine joue, je crois que c'est le seul et unique numéro de cette collection. Et donc peut-être il y a ce lien au départ d'une collection commune. Mais en même temps, il est bien clair que sans Georges Bataille, sans doute, le livre n'aurait pas été écrit pour toute une série d'autres raisons. J'avais remarqué que très curieusement, c'était le même Adrien Borel qui avait présenté à l'un comme à l'autre un certain horizon d'écriture, un psychanalyste devant lequel ils sont passés tous les deux, Léris d'ailleurs d'une manière un peu curieuse, à crédit, ce qui n'est pas une façon courante de pratiquer ce genre de choses. Et pour Léris, il lui a donné la possibilité ou le projet d'écrire quelque chose comme une autobiographie faite du point de vue des images érotiques et particulièrement des images représentant quelque chose comme un sacré gauche. Et pour Georges Bataille, il lui a donné la photo du supplice chinois, du supplice qui servira lui aussi à ce moment-là de point de départ à l'écriture. Donc voilà, il y a toute une série brassée d'éléments, d'éléments biographiques, d'éléments aussi textuels, sans aucun doute, des échanges, et puis le plus important échappe. Et sans doute, le plus important, c'est échapper.
Est-ce bien ainsi, à vos yeux, Pierre Villard ?
Sans aucun doute, parce que il me semble que l'intérêt de travailler sur des livres et sur des textes comme ceux de Léris et de Bataille, c'est précisément d'essayer de se débarrasser aussi d'une certaine mythologie, d'une mythologie de l'auteur, dont Blanchot, sans aucun doute, est celui qui, au plus près, essaye de nous débarrasser, je crois. C'est-à-dire, je ne crois pas du tout que la disparition de Blanchot soit de l'ordre d'une coquetterie. Je crois au contraire que c'est une façon de dire vous m'embêtez avec votre manière de traiter l'auteur, la mythologie de l'auteur, le mythe du grand homme. Et l'amitié de Léris et de Bataille, comme d'ailleurs toutes les amitiés, vu du point de vue de Léris, de Michel Léris, sont des amitiés réservées, préservées. Il a par exemple consacré à Picasso des textes tout à fait étonnants pour éviter de parler précisément du plus essentiel, c'est-à-dire de ce qui le lie, lui, à Picasso. Et il a pris la face nord, en quelque sorte, du génie de Picasso pour se débarrasser de la figure la plus difficile à obtenir, sans doute, en littérature, et qui est la figure de l'amitié intime, de l'amitié réelle.
La chute. Cette nuit dans laquelle nous tombons, pareilles à de longues larmes disparates, ne sera-t-elle jamais assez épaisse pour ralentir cette descente, glu noir, marne sanglante, que parfois liquéfie des volcans d'intensité multipliée par les grondements, les battements d'ailes, hors de la bouche livide, dont les ruisseaux de pierre mesurent l'effort fait pour contenir ce cataclysme dans des limites à peu près souriantes, semblables aux jambages passionnés qu'inscrit l'index, humide et doux, d'un vampire ou d'une reine, sur les cartouches, les papyrus de poudre noire, sèche, dure de la mort. Ici, ce ne sont plus des yeux de fille, des doigts enamourés mais l'air, qui, comme une bière lourde, se prolonge en mousse opaque, malgré les rues mangées de lueur. Grande lépreuse de lumière, tu te promènes accompagnée du cliquetis de tes ongles, et tes colliers s'agitent comme les fruits de phosphore de l'arbre qu'à grands coups les fils du vent font trembler, puis se déraciner. L'univers est un orgue, aux tuyaux qui s'éraillent dans cette église monstrueuse bâtie par les truelles de la folie, sans même une franc-maçonnerie pour unir les visages par des signes inconnus, mais qui pourrait transparaître parfois comme les couches souterraines que révèle la coupure des ravins. Ces tubes d'acier sont ravinés et s'amollissent. détestables entrailles. Canaux sordides, entrelaçant leurs labyrinthes aux trajectoires des fusées à peine incandescentes que lâchent des prêtres à soutanes déchirées au fond de caveaux pleins de boue. Les viscères sont moins noirs, perdus au ventre d'un cheval.
Toujours à propos de l'amitié Bataille, Léris, Pierre Villard, vous précisez, André Masson était ici l'œil et la main de cette amitié scandaleuse. Ces gravures où les projections se confondent le montrent assez.
Oui, il me semble qu'effectivement Masson, que Léris appelait le mentor, a été l'illustrateur, le dessinateur de quelque chose qui représenterait un point de tangence, de convergence entre les deux. D'abord parce qu'effectivement, il propose des images qui sont dans le droit fil de ces deux écritures, celle de Léris et celle de Bataille, qui sont en même temps des images d'accompagnement, des images qui vont avec certains livres illustrés ou accompagnés de dessins. Et puis en même temps, Masson est celui sans doute qui le plus cherche à explorer ce que le domaine graphique, et le trait particulièrement, peut ne pas devoir à la littérature, peut à quel point il peut ne pas servir la littérature, mais explorer au-delà, passer ailleurs. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il a été, pour ces deux écrivains, pour qui la question de l'œil, du visible, du regard, est sans doute plus essentielle que pour d'autres, Masson a été une sorte de main dessinant, traçant des figures inouïes ou illisibles, qui ne sont pas faites précisément pour être simplement des figures de littérature. De ce point de vue-là, Masson, qui a été sans doute le point de départ de Léris pour certains aspects en poésie, puisqu'on sait que le premier recueil de Michel Léris a été écrit littéralement dans l'atelier de Masson, au pied de ses tableaux, pendant que Masson travaille, en même temps que le travail de Masson. Il s'intitule Simulacre, et on peut se demander si ce titre même ne renvoie pas au travail contemporain d'André Masson, rue Blomet. Et ce travail dans l'atelier, immédiatement au pied du peintre ou du dessinateur, aura toujours pour Léris une importance singulière. Et même s'il se détache, il se sépare de Masson pendant toute une très longue période. Au départ, il y a tout de même cette amitié-là. C'est plus qu'une rencontre, c'est vraiment une collaboration, un travail en commun. Ils se font découvrir des livres, ils se font découvrir des peintres, ils se font découvrir des images l'un à l'autre.